Frères et sœurs, chers amis, au fil des dimanches, nous progressons dans notre lecture de l'Évangile et nous voyons Jésus, en différentes circonstances, qui consacre du temps à enseigner. Ce matin, il aborde auprès de ses disciples un sujet important et délicat qui nous plonge souvent dans l'embarras et la perplexité. Il envisage en effet la situation de rupture que produit le péché. Que pourrais-tu faire si ton frère a commis un péché contre toi? La question ainsi posée semble assez générale, mais il ne doit pas être très difficile de l'illustrer par telle ou telle expérience personnelle. La conséquence première du péché est celle d'une brisure. Le péché entraîne une cassure, il abîme la confiance, il détruit, au moins pour un moment, ce qui a été patiemment construit et entretenu jusqu'alors. Or, celui qui veut être disciple de Jésus ne peut pas se résigner devant l'amertume du péché, ni tourner les talons en passant à autre chose. Jésus propose un chemin à emprunter, lequel se compose de trois étapes. La première étape consiste à regarder la réalité en face. Si ton frère a commis un péché. Un tel constat, dont il convient de mesurer toute la gravité, suppose d'apprendre à discerner le péché. Il existe alors deux tentations opposées l'une à l'autre. La première consiste à voir le péché à tout instant et en toute occasion, de préférence chez les autres, car on le distingue mieux ailleurs que chez soi. D'une manière inévitable, nous risquons de nous ériger en grands inquisiteurs, obsédés par la traque de la paille présente dans l'œil de mon frère, alors que la poutre encombre le mien. La seconde tentation consiste à reléguer le péché parmi les vieilleries à oublier, sous prétexte que nous en avons peut-être parfois parlé avec excès. En ce cas, nous empêchons toute démarche de conversion et la réconciliation, pourtant nécessaire, devient impossible. Entre ces deux tentations, Jésus encourage un dialogue loyal et sincère, dans lequel chacun se présente à l'autre avec le désir de la vérité et la disposition de l'humilité. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Cet avertissement, lancé aux accusateurs zélés de la femme adultère, continue de valoir pour nous. Lorsque je ressens la blessure causée par le péché de mon frère, je sais qu'il m'arrive d'être celui qui est l'auteur de la blessure pour un autre. C'est pourquoi je deviens capable de prendre le temps nécessaire pour reconnaître le péché et pour tenter de le comprendre. Il y a le temps de l'émotion, légitime et même nécessaire, puis il y a le temps du recul et de la réflexion, le temps de la parole. Et voilà qu'arrive la deuxième étape du chemin de la réconciliation. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Jésus met ici en lumière deux aspects à honorer ensemble. Prendre l'initiative de parler pour s'expliquer et choisir le dialogue face à face. Il peut nous sembler plus facile de ne rien dire, de ruminer la colère ou la vengeance en notre for intérieur, ou encore de répandre largement nos reproches sans en parler à la personne concernée. L'attitude proposée par Jésus n'est certainement pas facile ni spontanée. Elle requiert le courage et le discernement, mais elle procède aussi du bon sens. En effet, si je parle à celui qui m'a fait du mal, je dois rechercher les mots qui rendent compte de ce que j'éprouve, en espérant que le pardon réciproque puisse advenir. Et Jésus décrit un chemin progressif qui commence par une explication seul à seul, qui se prolonge si besoin par l'intervention de deux ou trois personnes et qui sollicite ensuite l'assemblée de l'Église. Nous avons peut-être du mal à réaliser ce qu'une telle proposition peut donner concrètement pour résoudre un différend que nous aurions avec telle ou telle personne. Or, précisément, souligne Jésus dès le début de son propos, cette personne est un frère et elle le demeure. C'est pourquoi il est bon de se donner de la peine pour rétablir l'alliance qui a été brisée ou du moins distendue. Et nous pensons alors à l'initiative infatigable que prend et que reprend Dieu au long de l'histoire biblique pour chercher et pour trouver son peuple qui s'est éloigné de lui. Reste la troisième étape, qui apparaît comme la conséquence des deux précédentes. Deux hypothèses apparaissent alors, car on ne peut jamais préjuger de l'issue d'un chemin de réconciliation. La liberté demeure entière, et nul n'est contraint de demander pardon ni de pardonner. La liberté est même la condition essentielle d'une réconciliation authentique. Jésus imagine une première situation. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Combien de mésententes, de conflits, de blessures peuvent être dépassées et même cicatrisées grâce à l'exigence d'une écoute fraternelle qui aide à se comprendre et à reprendre ensemble la route quand elle a été interrompue durant un moment ou depuis longtemps. Mais Jésus n'est pas un doux rêveur qui idéaliserait les pesanteurs humaines qui sont les nôtres. C'est pourquoi il ne craint pas de signaler une seconde situation. S'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Notons que cet échec éventuel survient après les différentes initiatives recommandées. Il ne faut donc pas se décourager trop vite, car de bonnes surprises sont toujours possibles, parfois quand on ne s'y attend plus. Nous connaissons bien le poids de l'orgueil, de la honte, de la gêne ou de la pudeur qui freinent parfois notre cœur et l'empêchent de s'ouvrir pour accueillir la parole de l'autre. Or, Jésus se tient disponible pour nous aider à dépasser de tels obstacles et pour envisager toute réconciliation avec un regard chaque fois nouveau. Oui, frères et sœurs, comme nous l'avons chanté tout à l'heure avec le psalmiste, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Amen.